n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Après, tout est relatif.
Bon, et bien, bonjour et bienvenue dans cette 9e émission, l'émission du mois de juin 2023. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie, en très bonne compagnie, puisque nous sommes en compagnie de Patrick. Patrick.
Hey there, I'm Patrick Grubbs.
Patrick, qui est américain, qui ne parle pas français, pas beaucoup.
Alors, excepté, c'est moi qui serai en charge de la traduction pour vous aujourd'hui.
Voilà, Louise qui est ici présente.
Merci, Louise.
Merci à toi. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les news scientifiques des mois de mai et de juin. Puis, nous passerons ensuite au dossier de ce mois-ci qui est notre dossier du jour. C'est Patrick, justement. On lui posera plein de questions. On va décortiquer un petit peu sa vie d'étudiant américain. Nouvelle assez bizarre, puisque un fœtus est né dans la tête d'un fœtus. Et oui, en effet, vous avez bien entendu, la jumelle d'un bébé qui se trouvait dans son cerveau. C'est-à-dire que ce sont deux jumeaux et le fœtus de l'une des deux se trouvait dans la tête de l'autre. Assez étrange. Et donc, il faut savoir qu'elle est née comme ça. Elle présentait donc un crâne disproportionné avec un périmètre crânien assez important et la circonférence de sa tête qui était de 56,5 cm. En sachant que moi, j'ai une grosse tête, je fais 49 cm de tour de tête. C'était donc énorme pour une jeune enfant. Et avec des radios et des IRM, on a pu déterminer qu'il s'agissait en réalité d'un autre fœtus qui était dans sa tête. Voilà, en tout cas, on peut dire qu'elle n'était pas seule dans sa tête.
Ouais. Est-ce qu'elle a survécu ?
Alors, elle a survécu, hein, elle a survécu. Le problème, c'est pour pour l'opération, c'est assez compliqué. Apparemment, c'est un fœtus pour 500 000 naissances dans le monde. En tout cas, dans l'article, il est dit qu'elle a survécu. Combien de temps, on ne sait pas. Vous pouvez retrouver l'article dans lemonde.fr, sur lemonde.fr. Voilà. Alors, je n'ai pas présenté quelqu'un qui est ici dans les studios. Et oui, nous avons Didier, qu'on n'a pas eu depuis un certain temps. La dernière émission, il n'était pas là. Louise non plus, d'ailleurs. Donc voilà, Didier, bonjour.
Bonjour à tous.
Et bonjour. 111 ans après le naufrage d'un bateau très connu qui s'appelle le Titanic, on a retrouvé un collier en or et en dents de mégalodon. Oui, en dents de mégalodon. Vous savez ce que c'est que le mégalodon ?
C'était pas un dinosaure aquatique par hasard ?
Ouais, c'était pas un dinosaure.
C'est pas le dinosaure qui essaye de tuer Jason Statham dans...
Ce n'est pas un dinosaure. The mégalodon.
What is a mégalodon ?
Megalodon is a prehistoric shark that's way bigger than any of the sharks that are alive today.
Un mégalodon, c'est un requin préhistorique qui est bien plus énorme que tous les requins de nos jours.
Exactement. Un mégalodon, c'était assez énorme. On avait la bouche ouverte d'un mégalodon, ça fait à peu près 1,80 m environ. Une dent de mégalodon, ça fait, vous ne le voyez pas ici, mais c'est à peu près la taille de ma main, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de centimètres de long, ce qui est assez énorme. Et on a découvert ça grâce à des imageries de technologie 3D, en fait. Hein, et on sait désormais qu'il repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'eau. Donc tout le bateau, le Titanic, hein, depuis 1912. Et donc on a pu, en scannant numériquement l'épave du bateau, on a pu déterminer qu'il y avait ce fameux collier en or et en dents de mégalodon. C'est juste énormissime. Vous pouvez retrouver ça sur le site de Géo, l'article de Géo. .fr. Alors, dernière chose. Oui, Didier, dis-moi.
Est-ce que vous connaissez la race, en parlant de mégalodon, la race de dinosaure la plus généreuse ?
L'espèce de dinosaure la plus généreuse ? Ah non.
C'est les apélodons.
Merci,
elle est pas mal. Elle est pas mal. Je sais pas si on peut la traduire celle-là en anglais. Un apélodon.
C'est intraduisible. C'est...
We can translate it. Alors, une bonne nouvelle à vous annoncer. La cigogne blanche, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une cigogne, c'est un oiseau. Eh bien, elle a fait son nid dans le Cantal et c'est une grande première. Pour la première fois cette année, la cigogne blanche a fait son nid dans le Cantal. Donc on a des cigognes qui pourront très certainement se reproduire dans le Cantal. Donc on aura des petites cigognes d'ici quelques mois. Et elles ont fait leur nid dans le bassin d'Aurillac, à côté d'Aurillac. Et bien, la Ligue de protection des oiseaux veille au grain, c'est-à-dire qu'elle va observer ces cigognes et les suivre de très près pour savoir si elles font des bébés d'ici les prochains mois, à suivre sur lamontagne.fr.
Est-ce que tu sais si elles étaient là avant ou c'est vraiment une première dans l'histoire du Cantal ?
C'est une première dans l'histoire du Cantal depuis qu'on fait des comptages et qu'on suit la cigogne blanche. C'est-à-dire qu'on avait observé des passages de cigognes. Les cigognes sont des oiseaux qui sont migrateurs. C'est des oiseaux migrateurs. Et on a pu observer des cigognes de passage. Mais jamais des cigognes qui ont fait leur nid. Donc ça signifie aussi qu'elles font leur nid de plus en plus haut. Alors moi, c'est une hypothèse que j'émets. Peut-être qu'il y a très certainement eu des études là-dessus à voir. Mais ça signifie aussi qu'elles... leurs sites de nidification sont de plus en plus hauts, c'est-à-dire de plus en plus vers le nord. Et ça peut être lié peut-être au réchauffement climatique, peut-être. Ou aussi au fait que leur espace de vie est menacé et qu'elles vont se reproduire dans des lieux où on ne les voyait pas, parce que leur site de nidification est de plus en plus menacé de part et d'autre en Europe. Voilà. En tout cas, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Alors pour cette émission du mois de juin, nous avons ici dans les studios une personne qui s'appelle Patrick Krebs, on l'a présenté tout à l'heure au début de l'émission, et qui nous vient des États-Unis. Alors justement, d'où viens-tu, Patrick ?
Hey guys, I'm Patrick. I am from Seattle, Washington, and I'm currently finishing my master's degree in closed ecological systems at the University of Arizona in Tucson.
Je m'appelle Patrick Grubbs, je viens de Seattle, dans l'état du Washington, et je suis actuellement étudiant à l'Université d'Arizona sur les écosystèmes fermés pour le support de vie.
Le support de vie et les écosystèmes, exactement. Donc en gros, en quoi ça consiste ce genre d'études ? C'est quoi un closed écosystème et c'est quoi un support de vie ?
Sure, so... The short version is that the life support systems that keep our astronauts alive in space today are mostly physicochemical systems, meaning they use machines and chemicals in order to create oxygen out of water, for example.
Alors, déjà, les supports de vie, c'est ce qu'on utilise pour faire survivre les astronautes dans la Station spatiale internationale, notamment. Et actuellement, la plupart des supports de vie sont à base de systèmes physico-chimiques, la chimie qui permet de recycler l'eau, notamment l'air et l'oxygène aussi.
What I'm studying is closed ecological life support systems, which is the same life support system that the planet Earth uses to keep you and I alive. The difference is that instead of using machines and chemicals, we rely on a full ecosystem to create and recycle all of the resources we need to live.
Ce que Patrick étudie, lui, ce sont les systèmes écosystémiques, les écosystèmes qui permettent de faire du life support system. Donc là, l'idée, c'est de reproduire en fait ce qui nous sert ici sur Terre à vivre. Et c'est tout à base d'écosystèmes. Donc l'air, l'eau et les nutriments sont recyclés à base d'écosystèmes biologiques et non plus à base de chimie et de machines.
Ok. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est éviter d'utiliser des machines à nouveau dans l'espace pour subvenir aux besoins primordiaux de l'être humain. Comment tu étudies ça aux États-Unis ? Quelle est ta vie d'étudiant au final aux États-Unis?
That's a good question. The truth is, we still rely on machines in order to investigate closed ecological life support because it's very difficult to separate the ecosystem from the Earth that it's already on. So we have to replicate it using machines.
La réalité, c'est que pour étudier ces écosystèmes, on est obligé, en fait, encore d'utiliser des machines parce que c'est très difficile de séparer les écosystèmes qu'on étudie de l'environnement de la Terre. Donc on est obligé pour faire ça de faire appel à des machines.
What my studies look like are a lot of courses that I don't understand about chemistry and geology and math. And then the fun and interesting parts about life sciences.
Donc dans les cours que je prends, il y a beaucoup de cours que je comprends pas forcément sur la chimie, la géologie, de l'ingénierie, mais les cours que Patrick préfère, ce sont les cours de sciences de la vie.
De la vie.
J'ai une question. C'est par rapport aux États-Unis. Enfin, en Europe, j'imagine, ou en France, sûrement. Quand on voit dans des films des étudiants, ils viennent soit de Harvard, soit du MIT. Pourquoi ces deux universités ? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres universités.
Weird, I've never heard of those places. Are they like the University of Arizona, but worse ?
Il n'a jamais entendu parler de ces deux endroits. Est-ce que c'est comme l'Université de l'Arizona, mais en pire ?
A day in my life at the university is waking up whenever I want and going to very few classes. And then the real work starts when I get to the greenhouse, where I get to check in on my plants. But they're mostly behind glass, so I don't get to interact with them directly because I'm studying them in a closed environment.
Alors, son jour typique, c'est de se lever le matin un peu quand il veut, d'aller à quelques cours. Mais vraiment, ce qui l'intéresse le plus, c'est en fait après ça, quand il va dans les serres de l'université pour aller regarder comment vont ses plantes. Malheureusement, ses plantes sont derrière du verre, donc il n'a pas vraiment l'occasion d'interagir avec. Et la raison, c'est parce qu'il étudie des systèmes qui sont clos, donc il ne peut pas avoir d'interaction.
D'accord, donc dans ta vie d'étudiant tous les jours, si je comprends bien, tu fais tes études sur des environnements qui sont clos. Mais nous, en France, on aimerait bien savoir si c'est comme dans les films qu'on voit. Est-ce qu'il y a des grosses universités avec des gros campus, avec plein d'étudiants qui dorment les uns presque sur les autres, qui font la fête tout le temps, avec des fraternités, des sororités, où ils font des grosses fêtes et où ils doivent faire des épreuves pour faire partie d'une fraternité, etc.
That's pretty accurate, but only for undergraduates. Master's students have to do real work.
Donc c'est une assez bonne représentation de ce que c'est, mais seulement pour les étudiants en licence. Pour les masters et plus haut, en général, y a du vrai travail qui est fait. Mais la semaine prochaine, alors ça c'est moi qui rajoute, on va interroger quelqu'un qui est en licence, donc on pourra lui demander comment ça se passe.
Et oui, dans l'épisode prochain, dans l'épisode du mois de juillet, vous aurez donc à nouveau une étudiante, cette fois-ci une étudiante américaine, qui parlera de la « true life of American student ». Patrick, donc tu as bientôt fini tes études, d'accord ? Et pourquoi tu es en France actuellement, du coup ?
Well, I am in France because I am helping to build the Spring Institute for Forests on the Moon, which is currently probably the only organization in the world working towards my personal ambition of closed ecological life support, which can support humans and entire Earth ecosystems off-planet.
Il est ici parce qu'il aide à construire The Spring Institute for Forest on the Moon, dont on a déjà parlé. Pour lui, personnellement, c'est la seule organisation dans le monde aujourd'hui qui s'intéresse à construire ces écosystèmes clos qui permettent de faire du support de vie. Et il se trouve que c'est dans le Cantal.
Exactement. Dans le Cantal, donc là où nous nous trouvons exactement, c'est la Corrèze. Mais beaucoup de nos auditeurs sont du Cantal. Et donc, c'est dans le Cantal où l'on est les seuls, si je résume un petit peu, on trouve les seules personnes qui veulent développer des écosystèmes clos qui permettraient de nourrir des astronautes ou des futurs terriens sur la Lune, futurs luniens, si vous voulez.
je rajoute juste, c'est pas juste nourrir, c'est faire vivre entièrement. Faire vivre. Parce que pour, vivre, on a aussi besoin de respirer.
Et oui, respirer.
Et
oui.
Tous ces écosystèmes clos permettent en fait de répondre à ces
et
fonctions.
Et avoir de l'eau
nécessaire, vitale.
De l'eau aussi, de respirer. Donc un écosystème, ça permet de recycler l'eau, recycler l'air et apporter aussi de la nourriture. Donc tout ça dans l'espace, dans des écosystèmes qui sont clos. Et pour Patrick, ce qu'il vient de dire à l'instant, c'est que on est les seuls à vouloir développer ce genre d'écosystème. Et d'après lui, les seuls au monde.
Sure. So we actually started investigating closed ecological life support back in the 70s with both NASA and the Soviet Union programs. Trying to understand if we can let astronauts survive in space using just plants. At that time, the answer was no.
Alors, pour rajouter un petit peu, on a commencé à regarder ces sujets dans les années 1970. Les États-Unis et l'Union soviétique, ils investiguaient si c'était possible de faire vivre des astronautes avec juste des plantes. Et à l'époque, la réponse, c'était pas possible.
But technology has advanced quite a lot in the last 50 years. And now with new sensor technology and new life support technology, both bioregenerative and physicochemical, it's looking a lot more realistic that we could move an entire Earth ecosystem to space and use it to support life.
Mais depuis les années 1970, il y a eu énormément de progrès technologiques qui ont été effectués, notamment au niveau des capteurs et des suivis technologiques de ces écosystèmes. Et on pense qu'en fait, actuellement, on est dans une bien meilleure position pour pouvoir faire ces supports de vie complètement biologiques et écosystémiques.
D'accord. Donc, on est dans les prémices, donc vraiment, les balbutiements de nouvelles technologies pour le spatial, pour des voyages spatiaux lointains. Mais également, peut-être aussi, on peut imaginer, des stations spatiales sur la Lune ou sur Mars. On a Mars en ligne de mire, peut-être aussi.
Yes, absolutely. We've been limited to cislunar space, the space between the Earth and the Moon, because all of our space missions have to be resupplied from Earth frequently. But if we want to go further, like to Mars, we have to bring everything we need with us and then be able to recycle it indefinitely.
Effectivement. Jusqu'ici, on a été très limité à l'espace cislunaire, l'espace qui se trouve entre la Terre et la Lune, parce qu'on a besoin d'emmener depuis la Terre tous les matériaux ou toute la nourriture qu'il y a pour notre survie. Dans le concept d'un écosystème clos pour le support de vie, on peut maintenant emmener des choses sur des distances beaucoup plus lointaines parce qu'on va tout recycler à quasi 100%.
Et oui, il faut imaginer, par exemple, le recyclage ne serait-ce que de l'eau dont on a besoin. Il faudrait atteindre, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, un taux de recyclage de 99,5%, chose que des écosystèmes peuvent très, très certainement nous aider à faire.
Well, 99.8% is pretty good, but ultimately, if we're going to have a closed system where all of the matter remains inside of the system, we have to make that 100%, because if any amount does not get recycled, then it will eventually accumulate to the point where the system fails because some substances are locked up in a place where we can't access them.
Alors, dans le cas des écosystèmes, c'est encore plus que ça. On doit viser le 100% de fermeture parce qu'en fait, s'il y a la moindre fuite d'un élément, eh bien, au bout d'un moment, qu'il soit court ou long, on aura l'effondrement de l'écosystème à l'intérieur. Donc, là, on parle vraiment de boîtes complètement hermétiquement closes et qui est capable de faire l'intégralité du recyclage à l'intérieur.
À l'intérieur.
Lorsqu'on envoie un système biologique de support de vie, est-ce que en fait, il peut grandir sur place au fur et à mesure que des gens arrivent?
Yeah, that's the hope. Because biology is self-replicating, and it would scale to whatever amount of resources you gave it. Of course, the problem there is that you have to introduce more resources into this closed system to support more people. And then you have to make sure that it's perfectly balanced the way that it was before.
Donc c'est bien l'espoir. L'idée c'est que avec des supports de vie biologiques, il y a la capacité d'auto-réplication et le support va se répliquer autant qu'on lui donne de ressources initiales. Et donc à chaque fois qu'on emmènera des nouvelles personnes, il faudra emmener les ressources nécessaires pour que ça intègre le système biologique. Mais en gros, une fois que ces ressources sont là, elles peuvent être recyclées à l'infini et supporter et soutenir les nouveaux habitants de manière infinie.
Donc il faudra prendre sa gourde quoi, si on veut sur la Lune.
C'est exactement ça.
Comment t'es venue l'idée d'être scientifique? Comment t'es venue l'idée de t'intéresser à, plutôt de t'intéresser à ce sujet-là quand t'étais plus jeune?
For my birthday one year, my girlfriend gave me instructions on how to make a terrarium. And then I learned about Biosphere 2, which is the world's largest terrarium. And that was it. Ever since then, I can't stop thinking about it.
Pour un de ses anniversaires, sa petite amie lui a offert un kit pour fabriquer un terrarium. Et depuis, il a appris sur Biosphere 2, qui est le plus grand terrarium du monde. Et il ne peut plus s'arrêter d'y penser.
Et donc ensuite, les rêves deviennent réalité petit à petit, quoi, au final. C'est quelque chose qui t'a mordu, entre guillemets. C'est une sorte de passion qui t'est venue. Et ensuite, eh ben, ça devient réalité, quoi, en fait.
Yeah, that's pretty much it.
Quelle est la vie d'un ado à Seattle? Comment?
To be honest, I was not in Seattle when I was a teenager, but probably I had a lot of grunge and rainy weather. Grunge, the music genre.
Yeah.
And maybe also clothing.
Du grunge et de la pluie.
Alors le grunge, bon, si on peut citer un groupe, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est Nirvana. Mais quel genre de musique t'écoutais toi, par exemple?
This isn't the answer you wanted to hear, but I like country music.
C'est un mélange un peu bizarre entre grunge et country music.
It's synergistic.
Très bonne synergie.
Alors, tu dois être très content d'être dans le Cantal, parce que dans le Cantal, les gens adorent les musiques pas country, mais traditionnelles. Mm. On a pas mal d'accordéons, de balles et encore de balles et d'accordéons. Hein.
C'est vrai.
Yeah, all of the cows make me feel very at home.
Les vaches lui font vraiment se sentir à la maison.
C'est parfait, alors. Eh bien, merci Patrick. J'espère qu'on te reverra très bientôt parmi nous, en tout cas dans le coin ici, dans la région. On te souhaite un bon retour aux États-Unis et puis bonjour chez toi, en tout cas. On te fera un petit coucou de l'Auvergne et de la Corrèze d'ici peu. Et puis voilà.
Merci Patrick.
Merci beaucoup, Florent et Didier. This was very fun. Let's talk again soon.
Eh bien, l'épisode du mois de juin est terminé. On se retrouve pour le prochain épisode. Ce sera l'épisode 10 pour le mois de juillet. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Une émission radiophonique scientifique. Podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Ah ouais, tout est relatif.